1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment les réseaux nous aident à définir d'autres formes de proximité géographique et comment aussi la structure de certains réseaux est influencée par la proximité géographique. Quand nous parlons de réseaux, nous faisons allusion à des réseaux qui peuvent avoir des implantations physiques, comme les réseaux de transport, de déplacement de personnes, de marchandises, ou encore comme les réseaux techniques qui traversent le sous-sol de toutes nos villes. Et nous parlons parfois aussi de réseaux à propos de circulations plus virtuelles, des ondes radiophoniques ou des images satellites, ou encore des réseaux qui relient les personnes, ces réseaux sociaux qui peuvent être ou non localisés. Les réseaux ont en effet pour fonction d'organiser la proximité, de canaliser les déplacements, de nous permettre d'établir des relations et d'une manière générale, ils créent de la proximité dans l'espace géographique en permettant de franchir des obstacles de l'étendue, du relief, des rivières, voire des océans dans le cas des réseaux aériens. Les réseaux se formalisent avec des graphes. Un réseau, on peut le simplifier en l'imaginant comme un ensemble de lieux reliés entre eux par des liens. Eh bien, en mathématiques, un graphe, c'est tout simplement un ensemble de sommets et d'arêtes entre ces sommets. On peut donner de ces graphes des représentations qui sont équivalentes sous forme de schémas ou bien sous forme d'un tableau, une matrice de connexité. Par exemple ici, on a mis des 1 lorsque deux sommets du graphe étaient reliés directement par un segment et 0 dans le cas contraire. Avec ces graphes, on va pouvoir établir des mesures qui vont nous aider à caractériser le degré d'accessibilité des différents sommets. On appelle degré d'un sommet le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet. On appelle écart entre deux sommets la distance, entre guillemets, le nombre de segments qu'il faut franchir pour aller d'un sommet à un autre. Et on parlera d'écartement pour représenter, là aussi en utilisant les plus courts chemins dans le graphe, pour représenter la plus grande distance à franchir pour se rendre d'un sommet à un autre. De cette façon, on utilise donc la matrice de connexité pour faire les calculs et on mesure le nombre de segments qu'il faut franchir pour se rendre d'un sommet à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'écart entre le sommet C et le sommet F, par exemple. Ce nombre est de 3. Et on utilise ensuite ces mesures d'écart pour calculer donc l'écartement qui représente la distance la plus grande à franchir pour aller d'un sommet vers n'importe quel autre du graphe. Et on peut également donner une première mesure de la centralité du point du nœud dans le graphe en additionnant ces distances à tous les autres, comme dans la dernière colonne, somme des écarts, ou bien on peut se contenter de mesurer l'importance du carrefour que représente chaque nœud dans le graphe en regardant quel est son degré, le nombre d'arêtes qui sont directement incidentes. On va ainsi définir dans un graphe des centres et des périphéries. Il y a plusieurs manières, en effet, d'identifier une position centrale. Soit on va considérer que c'est le sommet qui a la plus petite distance à tous les autres, la somme des distances est minimale, et donc ça va être la localisation idéale, par exemple, pour un voyageur de commerce. On peut aussi, dans le cas des services d'urgence, préférer une position centrale qui se caractérise par un écartement minimal. On est le moins loin possible de n'importe quel autre sommet. Et on va bien sûr identifier des sommets périphériques, ce seront ceux dont l'écartement est maximal. On a ainsi figuré sur cet exemple fictif la position du centre du graphe qui est le sommet B, qui a le plus grand nombre d'arêtes incidentes et la distance minimale à tous les autres points. Et puis le sommet D qui se trouve être le sommet, le centre médian, la localisation pour les services d'urgence. Et enfin, dans les couleurs violettes, les sommets périphériques qui sont les plus éloignés. Dans la vraie vie, en vraie grandeur, comme sur cet exemple de la ville d'Indianapolis où on a représenté le réseau routier, M. Glaze a identifié les zones, les nœuds les plus périphériques, donc les moins accessibles, les moins bien desservies. Et une autre mesure de la centralité avec les points noirs au centre du graphe qui représente l'ensemble des carrefours qui sont en quelque sorte des passages obligés. C'est ce qu'on appelle une centralité d'intermédiarité. Il s'agit des nœuds par lesquels passe le plus grand nombre de plus courts chemins pour se rendre d'un lieu à un autre à l'intérieur de cette ville. Un autre exemple d'analyse de la centralité nous est donné par César Ducreuet à propos des routes maritimes entre des villes et des ports. Et nous allons voir entre 1950 et 2010, d'une part, le basculement de ces réseaux d'échanges maritimes entre l'Asie et le Pacifique, et d'autre part, l'émergence de villes spécialisées dans ce type de trafic. Voyons quelle était la carte en 1950. Là, nous avons typiquement une relation étroite entre les plus grandes villes, les sommets de la triade économique, New York, Tokyo, Londres, qui apparaissent comme les organisateurs des centralités dans ces grappes de villes les plus reliées entre elles par les liens maritimes. Existe encore Calcutta, un port important de l'Empire britannique, mais l'Inde vient d'accéder à l'indépendance. Et on voit également la part importante occupée par la place importante occupée par Buenos Aires en Argentine, qui connaissait aussi à cette époque un commerce international très important. 20 ans plus tard, l'image a commencé à changer, puisque si nous retrouvons encore en bonne position New York et Tokyo, ces grandes villes, nous voyons émerger un port spécialisé comme celui de Rotterdam, qui a peu à peu supplanté l'importance de Londres. Et lorsqu'on regarde les choses 20 ans plus tard, eh bien, on a Rotterdam qui a définitivement pris cette place de rang majeur dans les ports européens. Mais l'essentiel du trafic, vous le voyez, s'est déporté vers la zone pacifique où Singapour commence à émerger avant de devenir très évidemment un centre d'extrême importance parce que au bord du détroit de Malacca, il contrôle ce port spécialisé, les relations qui se développent énormément au cours des décennies récentes sur les routes maritimes de l'océan Pacifique. Même si donc nous avons encore toujours Rotterdam qui joue un rôle important du côté atlantique, l'essentiel de la vie de relations maritimes s'est déplacé, la centralité est désormais davantage sur le Pacifique. Nous pouvons analyser de la même façon, donc par grappes de villes très connectées et par centralité de villes dans ces graphes, les relations financières entre les 3000 plus grandes entreprises internationales dans le monde et qui, vous le voyez, ont pour centre New York, Londres et Tokyo, et également Paris, qui se distingue par un nombre important d'entreprises qui contrôlent des filiales situées, localisées dans des pays étrangers. Donc nous avons là des exemples de centralité dans le réseau du contrôle financier des entreprises qui sont extrêmement importantes. Nous voyons également, par exemple, apparaître Amsterdam parmi ce cénacle, qui n'est pourtant pas une grande ville, mais dont la législation favorise l'implantation, pour des raisons fiscales, de ce type d'entreprise. Si on fait un zoom sur ce graphe, on observe ici représentées par des cercles proportionnels les centralités que l'on repère importantes à Londres, à New York et à Paris, Et on a ajouté en couleur une représentation d'une autre mesure de la centralité d'intermédiarité, le nombre de passages obligés, en quelque sorte, par ces réseaux financiers d'entreprise qui marquent définitivement la prééminence de la centralité londonienne, puisque Londres abrite un nombre considérable d'entreprises financières qui interviennent dans la constitution de ces groupes multinationaux. Enfin, dernier exemple, nous avons là une analyse de centralité dans le graphe du trafic aérien qui a été regroupé en grosses grappes, puisque bien évidemment ce sont des villes des États-Unis ou d'Asie qui occupent le centre de hub très important pour le trafic aérien. Ce que je voulais vous montrer sur cette image, c'est le regroupement par proximité assuré par des connexions fréquentes entre des villes européennes, donc même au sein de ce réseau extrêmement détaché du sol, nous avons une région d'Europe qui se manifeste ici par le regroupement dans la couleur verte d'aéroports proches les uns des autres et qui sont aussi bien des aéroports de grandes villes que des aéroports touristiques comme Palma de Majorque ou Tenerife. Voilà donc une façon de retrouver des relations organisées par des proximités plus régionales à l'intérieur de réseaux d'ampleur mondiale.